d'avoir laissé tes occupations, ta famille. Et merci vraiment.
Merci beaucoup à Loïc et à Hélène pour cette invitation. Je pense que c'était à un moment l'année dernière qu'elle m'a contactée. On a échangé un petit peu par mail et c'était une grande joie de pouvoir dire « Ah, je vais aller à Nîmes, je vais rencontrer tout plein de personnes géniales et on va passer un petit week-end ensemble. » Je viens de Lille. Je n'ai pas l'accent de Lille, je vais dire ça hier aux femmes. Alors que je ne sais pas lequel est le mieux, l'accent anglophone ou l'accent du Nord, mais en tout cas, je n'ai pas l'accent du Nord typiquement. Je suis née aux États-Unis, j'ai grandi là-bas. J'avais 27 ans quand je suis venue en France, ici. Et donc, je suis là depuis 15 ans. Donc, calculons là, j'ai 43 ans. Je vais pour vous le mettre comme ça, c'est bon, c'est fait. Avec mon mari qui est français, nous servons dans l'église Lille Métropole à Lille. C'est avec joie d'être ici, une petite extension de notre église, de vivre ces moments avec vous. Ils montrent les photos tout le long du week-end de nos filles. On a deux filles qui ont 6 ans et 4 ans, toutes mignonnes. Ils ont hâte que je revienne. Et puis, l'école pour nous commence demain. Donc, on redémarre ce que vous venez tout juste de laisser. Et pour les parents, on est « Ouh, c'est fini les vacances !» Pour les maîtresses, c'est « Ah, OK !» Ça reprend. j'ai grandi aux États-Unis. J'ai grandi dans une petite ville dans la partie ouest de l'État de Massachusetts. C'est un peu barbare comme nom d'un État. J'ai fait mes études dans la région de Boston. Je vais peut-être situer un peu plus où est Boston. Vous savez sûrement où est New York. Tout le monde sait où est New York. C'est un peu le cible. Tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est à New York. Donc j'ai grandi, si on monte 3 heures au nord de New York, c'est là où j'ai grandi. J'ai pas été toujours dans la même ville. Quand j'étais entre mes 3, 4, 5 ans, j'étais dans une ville à côté de là où j'ai grandi. Et cette ville était plutôt connue pour sa violence, les problèmes de drogue, de gang et tout ça. Et mes parents, ils ont dit, bon, on ne veut pas avoir nos enfants grandir dans cet environnement. Donc, on a juste changé de ville, la ville à côté. Et c'est là où j'ai grandi. J'avais 6 ans qu'on a déménagé. Et je me suis bien fait à cette nouvelle vie. Dans cette nouvelle ville, peut-être 2-3 ans après le déménagement, il y a un nouveau garçon qui arrive dans la classe et c'est un garçon que j'avais connu de l'autre ville, connu pour sa violence et tous les problèmes de gang et tout ça. Et il s'est installé dans la même classe que moi. C'était un gars qui n'avait pas vraiment une bonne réputation, par contre, dans notre classe. Il faisait beaucoup de bêtises, il était tout le temps des problèmes avec les maîtresses, avec les autres enfants. Et il était un peu un garçon un peu perturbé. Par contre, les gens, ils avaient compris très vite qu'il ne fallait pas trop déranger ce garçon parce qu'il allait revenir avec sa façon de faire. Et en gros, les gens respectaient ce gars. Un jour, donc j'étais peut-être en CM2, CM1, CM2, un garçon dans la classe, il commence à se moquer de moi, il n'est pas très gentil, je ne sais même pas ce qu'il avait fait ou ce qu'il avait dit, mais un petit remarque pas très gentil. Et ce gars que j'avais connu de l'autre ville, il dit « Hey, laisse-toi tranquille », parce qu'il savait, il se rappelait de moi, on se connaissait, donc il dit encore « Je la connais, laisse-la tranquille ». Et le gars, whoop, bouche fermée, plus jamais il a posé des problèmes, et je dis « Oh ». C'est pas mal d'être de ce côté, de ce gars, d'être vraiment en lien avec lui, bon, même si je ne vais pas faire les mêmes bêtises que lui, mais le fait d'être associé avec cette personne que je sais qu'il va me défendre si j'ai un problème, les autres vont le respecter parce qu'il ne veut pas être du mauvais côté de lui, c'était un peu à ma faveur. Donc j'étais quelque part associée avec ce garçon, même s'il n'est pas resté très longtemps non plus dans la classe. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je me sentais un peu, quelque part, valorisée par le fait qu'à un seul mot de ce garçon, les autres m'ont laissé tranquille. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience où vous étiez quelque part associé avec des personnes qui étaient soit de bonne réputation ou bien vues ou à cause de leur influence, à cause de leur personnalité, et tu étais associé avec eux. C'est comme si ça a fait un peu, tu es associé avec cette personne, avec cette réputation. Des années plus tard, quand j'étais avec quelques amis, on était dans la jeunesse, on était ados, on jouait au volley avec un petit groupe d'amis. Et mon frère, il avait juste 2 ans de plus que moi, il a toujours 2 ans de plus que moi, on jouait au volley. Il était très, très sportif, il n'était pas très grand, mais il bougeait bien, bougeait vite, et puis blablabla, le volleyball. Et un de ses meilleures copines, très grand, avec des basketballeurs, tout ça, il bouge, paf, le ballon part. Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée dans leur équipe, juste les deux et moi. Moi, pas du tout athlétique, pas du tout sportive, pas du tout, mais en fait, le sport... Je regarde, mais je ne joue pas en général le sport. Et l'autre côté du filet, du volet, je vais chercher parfois les mots en français, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes. Je ne sais pas comment ou pourquoi. On était 3 d'un côté et 5 ou 6 de l'autre côté. Mais mon frère et son meilleur ami, il dit, ah, on n'a pas besoin d'autres personnes, on va vous prendre juste nous. Et j'étais comme la petite sœur, j'étais avec, ok, on va jouer. Donc, il joue, paf, et je regarde, waouh, oui, très bien, ok, super, wouh, ok, très bien. Une fois ou deux, le ballon vient, paf, et puis ça va l'autre sens, l'autre, paf, il rattrape. Donc, c'est même mes bêtises en essayant de jouer le jeu, ils ont rattrapé. Donc, c'est vraiment pas grave. Moi, qui ne suis pas du tout sportive, je m'en fiche franchement de jouer les jeux. Mais puisque j'étais de leur équipe, j'étais associée avec les gagnants. Et on a gagné, mais j'ai rien fait en gros, mais on a gagné et j'étais associée avec les gagnants. On peut vivre ça parfois avec les matchs quand la France joue et quand la France gagne. On est tous gagnants, on est tous champions, même si nous n'avons pas joué, mais nous sommes associés avec cette équipe et on sent tous gagnants, on est tous vainqueurs. Parce que quelques personnes ont joué, ils ont gagné pour nous, quelque part. Ça fait du bien de savoir qu'on est attaché ou en lien ou associé avec des personnes avec une bonne réputation, qui sont connues de leur intelligence ou leur réussite ou leur pouvoir. Et on s'associe, on sent même mis en valeur nous-mêmes par le simple fait d'être associé avec ces personnes. On sent un peu couvert ou même comblé par une appartenance par laquelle on puise notre identité. On prend notre identité par cette appartenance. C'est pas rien d'appartenir quelque part. Et je crois que c'est même un besoin fondamental chez l'être humain, de sentir j'appartiens quelque part. Je me sens inclus, voulu, même aimé, accepté par qui je suis. J'appartiens ici. On va parler de quelqu'un aujourd'hui qui a sûrement pas connu ça tout de suite. À l'époque de Jésus, l'être humain avait ce même besoin que nous avons aujourd'hui d'appartenir, de sentir que j'appartiens quelque part. Et existait aujourd'hui, comme à l'époque aujourd'hui, les personnes qui vivaient le rejet, on connaît les personnes, même nous, sûrement les personnes ici, ont vécu ou vivent même déjà le rejet dans leur vie. Et c'était pareil quand Jésus était ici sur cette terre. La même chose que l'être humain vivait là, on vit encore aujourd'hui. Zachée, c'est un homme dans le Nouveau Testament qui vivait le rejet. Si on grandit dans l'Église, on est enfant, on apprend que Zachée était petit, et puis il voulait voir Jésus quand Jésus venait dans la ville, donc il n'arrive pas à voir parce que les gens ils étaient tous plus grands. Donc il arrive quelque part, il y a un arbre, je vais grimper dans l'arbre, je vais regarder voir Jésus passer devant moi quand il vient par ici. Et sa technique a marché parce que même peut-être mieux qu'il pensait, parce que Jésus arrive. Ah, il voit Jésus, mais Jésus le voit aussi. Et peut-être Jésus n'aurait pas vu s'il n'était pas monté dans l'arbre. On va lire son histoire en Luc 19, verset 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et il la traversa. Alors, il avait un gars nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycamore pour voir Jésus qui devait passer par là. Et lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Et quand les gens virent cela, il y a eu un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. au cas où que quelqu'un ici ne comprenne pas pourquoi il y avait des murmures, on va creuser un petit peu dans cette histoire quelques minutes ce matin. Selon le verset 2 dans ce passage, Zachée était chef des collecteurs d'impôts. Nous lisons ce terme « collecteur d'impôts » 15 fois dans le Nouveau Testament et 10 sur ces 15 fois, nous voyons « collecteur d'impôts » associé avec le mot aussi « pêcheur ». Collecteur d'impôts et pêcheur. Les deux termes étaient souvent de pair, souvent on les voyait ensemble. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs étaient groupés très souvent. Ce que je trouve intéressant, c'est que le mot collecteur d'impôts était spécifiquement nommé avec le mot aussi pêcheur, qui est un peu général. C'est tous les autres péchés groupés dans le même mot, pêcheur. On ne trouve pas les autres péchés spécifiquement comme les menteurs et les pêcheurs, ou des tricheurs et les pêcheurs, ou les voleurs et les pêcheurs, mais on voit collecteur d'impôts et les pêcheurs. Ça veut dire que ce collecteur d'impôts est sorti un peu plus du lot que tous les autres pêcheurs généraux. Tous les autres péchés généraux, qui on pourrait vivre. Ce n'étaient pas des simples pêcheurs, les collecteurs d'impôts. Ils sortaient du lot parmi les autres simples pêcheurs. Ils étaient spécifiquement nommés à part. Pourquoi les collecteurs d'impôts sortaient du lot comme ça? Bon, comme nous, aujourd'hui, il y avait des impôts à payer dans l'Empire romain. Mais c'était bien plus développé. On peut croire ce qu'on croit sur nos impôts, nos taxes ici en France, mais dans l'Empire romain, c'était extrêmement vaste, beaucoup d'impôts à payer. L'Empire était énorme, donc pour faire payer les impôts, il fallait du monde pour collecter ces impôts. Il n'y avait pas encore le paiement en ligne qu'on a aujourd'hui. Donc il fallait du monde délégué partout dans l'Empire pour collecter ces impôts. Dans tous les villages, dans toutes les villes. En général, les collecteurs d'impôts, ils se plaçaient dans les lieux propices pour le passage, les lieux où les gens ne pouvaient pas éviter, à côté des portes d'entrée des villes, à côté des ponts pour traverser, dans les lieux de passage où tu étais obligé de passer par là, tu étais obligé de passer par le collecteur d'impôts pour payer ton droit de passage. Donc ils se plaçaient là avec leur table. Il faisait payer les gens qui devaient payer pour le passage et d'autres sortes de taxes et impôts. Et il y avait une grande variété. Bon, quand je lisais la liste de toutes sortes de variétés, je me disais, oh, mais c'est quand même abusé. Tout ce qu'ils devaient payer pour les choses irraisonnables, irraisonnables. Le peuple juif faisait partie de l'Empire romain à l'époque du Nouveau Testament. Donc leurs impôts, ils devaient payer les impôts à Rome. Les collecteurs d'impôts, ils étaient des citoyens de chaque ville. Les personnes qui vivaient sur place, ils appartenaient à une classe de personnes qui s'appelaient les publicani. Donc, c'était ces personnes qui travaillaient dans l'administration des villes et des villages autour de l'Empire. Ils étaient délégués par l'Empire pour faire tourner les choses. Voici comment ça marchait. Les publicani, tous les 2-3 ans, ils devaient acheter des droits régulièrement pour avoir le droit pour collecter des impôts dans chaque ville là où ils se plaçaient. Ils payaient à Rome en avance une somme estimée pour combien ils pensaient qu'ils allaient pouvoir collecter pendant 1 an, 2 ans dans cette ville ou la région. Ils payaient à Rome en avance la somme, donc il y avait un petit risque parce que c'était possible qu'ils ne collectent pas assez pour couvrir les frais qu'ils avaient payés en avance à Rome pour les impôts. Mais en général, ils collectaient bien au-delà de ce qu'ils avaient payé en avance. Et ils sont devenus riches dans le processus parce qu'ils ont créé toutes sortes de raisons pourquoi ils devaient taxer les personnes. Et les collecteurs d'impôts avaient une réputation d'être malhonnêtes, corrompus, demandant des sommes très élevées pour les raisons non justifiées. Donc les gens ne faisaient pas confiance à ces collecteurs d'impôts et ne les aimaient pas. Pour les Juifs, c'était encore plus compliqué, puisque eux, ils ne reconnaissaient pas la domination de l'empereur sur eux. Donc la seule autorité qu'ils avaient, c'était Yahweh, leur Dieu, pas l'empereur. Donc les collecteurs d'impôts dans les villes et les villages, c'était des hommes juifs qui travaillaient pour l'Empire. Donc ils voient, mais vous travaillez pour l'ennemi, vous travaillez pour celui qui n'est même pas notre Dieu, il n'est même pas au-dessus de nous, ce n'est pas notre autorité. Mais ces hommes cherchaient leur propre profit, leur propre gain, sur le dos de leur propre peuple. Aux yeux des Juifs, les collecteurs d'impôts étaient des traîtres. Ils voyaient leur richesse personnelle comme étant plus importante que le bien que leurs confrères juifs. Et ils étaient corrompus, malhonnêtes dans toutes leurs affaires. Donc, OK, oui, ça sort du lot. Collecte d'impôts, et les autres pêcheurs, ça va. Mais c'est les pêcheurs, mais collecte d'impôts, c'est vraiment pire, pire, pire. On ajoute à tout cela, pour les Juifs, le fait que le patron ultime pour les collecteurs d'impôts, c'était l'empereur. Si on monte la chaîne, c'était l'empereur. Et comme les empereurs romains, ils avaient tendance à se voir comme étant l'autorité suprême, quasiment Dieu eux-mêmes, certains s'autoproclamaient Dieu, ils étaient quasi divins dans leur autorité sur l'Empire. Aux yeux des Juifs, les collecteurs d'impôts, quand tu étais dans ce rôle, ça voulait dire que tu travaillais pour un homme qui se voyait comme rival à Yahweh, alors que Yahweh, c'est le seul Dieu. Donc, ils étaient traîtres par la nature corrompue de leur travail, la malhonnêteté de leur travail, et ils étaient aussi traîtres par le fait de travailler du côté de l'Empire et pas du côté du peuple de Dieu. On va revenir maintenant à Zachée. La Bible nous dit qu'il était lui-même Archytelonès. Archytelonès, c'est le chef des collecteurs d'impôts, mais des chefs parmi tous les autres. Donc probablement, il avait en dessous de lui d'autres hommes. Il avait l'autorité sur eux. Peut-être qu'il collectait une petite partie de leur collection aussi. Et il avait une grande position, de grande autorité, d'influence. Et le texte nous dit clairement qu'il était riche. Il était riche. Des moyens malhonnêtes. Jésus, il entre dans sa ville et quelque chose chez Zachée le pousse à vouloir découvrir qui est cette personne. Il a envie de voir Jésus passer. Il avait probablement déjà entendu parler de lui parce qu'il avait envie de découvrir plus. Donc s'il avait déjà entendu des histoires, ah, j'ai envie de savoir plus, c'est qui ce Jésus. Ça m'intrigue un petit peu. Donc il monte, il cherche un moyen pour avoir une belle vue de Jésus. Et il avait entendu sûrement de ses enseignements, ses miracles, les signes qu'il produisait. Et Zachée, il est peut-être même intrigué de voir un homme qui était un homme d'influence, un homme de pouvoir. Comme lui, il était aussi un homme d'influence et de pouvoir. Par contre, la seule différence, même une immense différence entre lui et Jésus, c'était que les gens semblaient aimer Jésus. Il avait toujours du monde autour de lui, les gens le suivaient de partout et on cherchait sa présence. Alors que Zachée, oui, un homme d'influence et d'autorité, de pouvoir, mais les gens le fuyaient. Les gens le fuyaient. Personne ne cherchait sa présence, sauf peut-être ses camarades de collecteurs d'impôts, mais encore, on ne sait même pas si c'était le cas entre eux. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à devenir un chef de collecteur d'impôts, par ce travail d'être un traître, par ce travail de devenir haï par son propre peuple autour? Est-ce que c'était une envie d'être riche, il avait juste envie d'avoir beaucoup d'argent, ou est-ce qu'il avait envie d'avoir une impression de sécurité par la richesse? Est-ce que c'était le fait que peut-être il avait peur de manquer, donc il avait essayé de ramasser autant que possible les affaires, il était peut-être poussé par une crainte pour grimper les échelons, pour avoir une position de chef un jour, pour avoir cette position, même si ça marquait sa réputation. Il était probablement venu d'une famille de collecteurs d'impôts, donc peut-être c'est le seul exemple qu'il avait vu depuis son enfance, on ne sait rien. Ou peut-être il n'avait jamais réfléchi, comme il était dans cette classe de publicani, peut-être il n'a jamais réfléchi à l'idée de faire autre chose, parce que les publicani n'étaient pas que les collecteurs d'impôts non plus. On ne sait pas. On ne connaît pas en profondeur l'histoire de cet homme et on ne sait pas comment il est arrivé à cette position où il était. Mais quelque part, à un moment, il a commencé à travailler en étant un collecteur d'impôts et à un moment, il est grimpé pour devenir chef des collecteurs d'impôts. Il a avancé dans ce rôle et probablement, il vivait avec le fait qu'on le déteste depuis plusieurs années. Et même, c'est très possible que depuis même très jeune, si sa famille était dans ce travail aussi, peut-être depuis très jeune, il vivait avec le fait qu'on ne m'aime pas. Je suis à l'extérieur. Peut-être qu'il s'est même habitué au fait d'être à l'extérieur, d'être rejeté par les personnes autour de lui. Est-ce qu'il s'était habitué? Est-ce qu'il a dit que ce n'est pas grave? Ou est-ce que ça le travaillait un petit peu? Je me demande si ça commençait peut-être à le peser sur lui, le fait d'être toujours à l'extérieur, de ne pas appartenir à son propre peuple. Parce que quand Jésus arrive vers lui, Zachée, il vit un changement radical, rapide. Jésus le voit dans l'arbre. Il dit, ah, descends ici, parce qu'il doit aller chez lui. C'est comme si Jésus avait une mission ciblée sur Zachée. Il a même appelé par son nom, Zachée. Ah, descends de cet arbre. Comment Jésus savait comment il s'appelait? Est-ce qu'il s'était renseigné sur lui? Est-ce qu'il savait que quelqu'un là avait besoin d'appartenir, avait un besoin intérieur que peut-être personne d'autre voyait? Il savait que quelqu'un là avait besoin d'appartenir, donc il cherchait. Il y a un chef de collecteur d'impôts ici, quelque part. Il s'appelle comment? Ah, OK. Zachée, descends. Je dois aller chez toi aujourd'hui. Zachée, il descend vite. Il se prépare pour recevoir Jésus avec joie, le texte nous dit. Mais dans le processus, il est confronté par ses murmures. Et Zachée, il sait exactement pourquoi la foule réagit de cette manière. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Jésus, celui qui étonne les foules par ses enseignements, par ses miracles, par ses signes, comment ça se fait que lui, ce Jésus, va chez ce Zachée? C'est pas possible. Cet homme si mauvais, si malhonnête, chez un traître, comment c'est possible que Jésus va chez lui? C'est pas normal. Ou peut-être même c'est pas juste. Mais je crois que Jésus savait que Zachée avait besoin de vivre autre chose. Et voici la réaction de Zachée. Face au murmure, il entend ça, il connaît sûrement bien tout ça autour de lui. Et verset 8, dans ce chapitre, nous lisons, « Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Ah, c'est impressionnant. Il donne la moitié. Vous imaginez faire la moitié de tous vos biens et donner la moitié de tous vos biens aux pauvres. Alors, ce gars était riche, donc il avait beaucoup de biens. La moitié, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et si jamais il a pris trop d'argent des personnes, je rembourse 4 fois. Avant, il s'est dépouillé dans son argent, 4 fois plus. Et il avait sûrement pris trop d'argent des personnes à travers les années. Comment ça se fait qu'il change si rapidement? Toute une vie de travail corrompu, de malhonnêteté, d'injustice envers son peuple, et boah, un coup, ce changement impressionnant. Il revient complètement sur un fonctionnement qui était fondé et ancré en lui par son histoire personnelle, par des années, par la culture. C'était comme ça que ça fonctionnait, mais il revient sur ça dans une seule seconde. Ça faisait partie de sa personne. Ça faisait partie de son identité. La moitié de ses biens, je donne aux pauvres. 4 fois la somme, pris en trop, je rends. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je lis ça, je suis un peu sceptique. Est-ce qu'il a vraiment dit, est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il avait dit? Il a dit tout ça, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionnée. Est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il a dit qu'il allait faire? Mais Jésus ne remet pas en question ce que Zachée dit. Il dit pas, attends, Zachée, j'admire ton enthousiasme, mais attends, est-ce que tu vas vraiment donner tout ça aux pauvres? Il ne remet pas en question ce qu'il dit. On voit clairement la réponse de Jésus en verset 9. Jésus lui dit, alors aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi fils d'Abraham. Non seulement Jésus ne remet pas en question la sincérité de la démarche de Zachée, mais il a proclamé publiquement sa nouvelle appartenance pour que tous les autres autour ils entendent. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi. Il met vraiment l'emphase. Lui aussi, c'est un enfant, le fils d'Abraham. Pour que tout le monde puisse entendre, cet homme que vous détestez, lui, par son métier, par sa position de connexion avec l'Empire, cet homme est aussi un fils d'Abraham. Lui, il est accepté par moi. Il a sa place aussi dans cette famille de Dieu. Ne le rejetez plus. Par une seule parole de Jésus, la vie de cet homme était complètement basculée. Vous imaginez comment Zachée a dû vivre tous les jours de sa vie surtout sa vie adulte, mais peut-être aussi de sa jeunesse, peut-être même de son enfance, rejeté, haï par les personnes autour. Peut-être il s'est habitué à ça, le fait d'être en dehors des autres, mais c'était sûrement très désagréable à vivre tous les jours. Est-ce qu'il ne supportait plus le fait d'être haï par son entourage? Pour qu'il vive un tel changement si radical à la venue de Jésus chez lui, Zachée a dû expérimenter, vivre quelque chose en lui-même, quelque chose de si profond que sa vie a basculé d'un coup. Quelque chose dont il avait besoin. Nous ne voyons pas, mais il avait besoin de ça. Et peut-être il avait besoin depuis très, très, très longtemps. Quelque chose qu'il n'avait peut-être même jamais vu de sa vie. Quand Jésus l'appelle par son nom, il déclare « Je dois venir chez toi aujourd'hui. » Il fait une déclaration d'amitié. Quand quelqu'un mange chez quelqu'un d'autre, surtout dans cette époque, dans cette culture, c'était une déclaration, c'était un signe clair d'amitié, d'acceptation et de connexion entre ces deux personnes. D'un coup, quand Jésus dit à Zachée, « Je dois venir chez toi », il est en train de dire, « Je veux être ton ami et je l'assume complètement. Je m'en fiche complètement, totalement de ce qui nous, les personnes qui nous voient se côtoyer parce que Zachée, je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte d'être vu avec toi, de m'associer avec toi et que tu sois associé avec moi. » Et cette proposition d'amitié si ouverte et si ciblée vers Zachée change sa vie pour toujours. D'un coup, ce n'était plus l'homme rejeté de tous, parce que maintenant, c'était l'ami de Jésus. Zachée, l'ami de Jésus. Et par ce geste, nous voyons que Zachée a été libéré de ce besoin de richesse, même de domination et de pouvoir, parce qu'il prévoit de tout renoncer. Il lâche d'un coup tout ça. Cette association avec Jésus a changé sa place d'appartenance et en conséquence, ce moment a impacté pour toujours même son identité. Fils d'Abraham, ami de Jésus. Ça change tout. Ça change tout dans son association. Non seulement cette rencontre a changé la personne de Zachée, mais cet échange public, ce n'était pas juste caché quelque part dans une maison. Et il était « Waouh, wow, Jésus m'a dit ça ». Il n'avait pas besoin d'expliquer aux autres ce que Jésus a dit parce que tout le monde était là, tout le monde a entendu. Cet échange était public. On pourrait dire que d'une manière ou une autre, tous les gens voyaient comment Jésus a parlé à Zachée. Et ça a dû changer leur manière de voir aussi Zachée. Voir Jésus aller vers cet homme, s'associer à lui, le changer de côté. Il n'était plus le côté du Romain, des côtés des tricheurs. Il était même maintenant le côté fils d'Abraham, le côté de la famille des Juifs. Il n'était plus à l'extérieur. Donc son cœur a été changé par la proclamation d'amitié de Jésus et sa réputation a été changée par son association et son appartenance avec lui. Donc une vie complètement changée, une vie complètement transformée par cette rencontre avec Jésus. Ça se passait dans un espace peut-être quelques minutes. Frap, 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 tout a changé juste par cet échange. C'est puissant. Jésus avait une tendance d'agir de cette manière dans les vies des personnes ou les personnes qui auraient pu dire de eux-mêmes « Je suis rejeté, je suis à l'extérieur, soit à cause de ma vie, soit à cause de mes choix, soit mon état me disqualifie d'une appartenance avec les autres. » Mais Jésus arrive. Il agit dans les vies et tout change. Tout change. La femme avec la perte de sang, on lit son histoire en Marc 9, elle est aussi obligée de rester à l'extérieur des autres parce qu'elle est vue comme étant impure. Et elle ne peut pas intégrer la communauté parce que, à cause de sa maladie. Elle est malade, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas son choix, mais à cause de cette maladie, elle ne peut pas être intégrée, elle est à l'extérieur. Mais quand Jésus vient la voir, 12 ans de honte et d'isolement ont changé comme ça. À cette rencontre, elle a été complètement guérie. Donc physiquement, elle a pu être intégrée de nouveau dans son peuple, ne plus être à l'écart, séparée de tous les autres. Mais aussi, Jésus l'a appelée « ma fille ». Et tous les autres ont entendu que Jésus l'a appelée « ma fille ». Une appartenance tellement tendre, tellement précieuse dans sa façon de parler à cette femme, avec la foule autour. Donc, du coup, son identité a été aussi restaurée, pas que son état physique, mais aussi son identité a été restaurée à cette rencontre avec Jésus qui a sûrement duré quelques minutes. Mais tout a changé grâce à cette rencontre. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, aussi une femme qui était à l'écart à cause de cette situation de sa vie. Sa vie, son statut marital a fait qu'elle était rejetée par les autres, 5 fois divorcée et maintenant était avec encore un autre homme qui n'était même pas son mari. Elle venait seule puiser l'eau. Jésus l'a interceptée et elle vivait quelque chose encore impressionnant. Le fait qu'elle soit aussi samaritaine, qui a été vue comme étant pas, c'est des gens mal vus par les juifs aussi, méprisés. Donc, sa situation maritale, sa culture ont fait que Jésus n'aurait même pas dû être là pour parler avec elle. Mais il s'est arrêté, il a parlé avec elle. Jésus voyait la personne au-delà de sa condition ou sa position. Il s'est révélé ouvertement à cette femme comme étant le Messie. Elle part annoncer à tout son village et sa vie a été changée. Elle a annoncé l'Évangile et plein de personnes sont venues à la fois à suivre Jésus grâce à cette femme. Les personnes avec le lèpre étaient aussi à part, isolées, rejetées à cause de leur maladie. Ce n'était pas méchant, mais personne ne voulait tomber malade avec cette maladie. C'était tellement, on a tellement peur d'être malade de lèpre. Il y avait un homme qui était lépreux qui vient devant Jésus un jour, Matthieu 8. Il tombe à genoux devant lui et dit, « Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et qu'est-ce que Jésus fait? Oui, il est guéri, mais avant de le guérir, il le touche. Il a touché cet homme avant de répondre à sa question. Personne touchait les gens avec le lèpre. Personne touchait ces personnes. On fuyait, ils devaient annoncer leur arrivée, ils devaient annoncer qu'ils étaient là, parce qu'en général, ils disent « Ouh, on ne se mérite pas, on ne veut pas toucher, on ne veut pas être proche avec ces personnes, ils sont malades. » Personne ne veut être malade aussi avec eux. Cet homme, il vient devant Jésus et Jésus le touche. Avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, il le touche. Il réconcilie cet homme avec le contact humain, qui était le plus grand besoin. Et après l'avoir touché, Jésus dit, « Je le veux. Je le veux, sois pur. » Par cet acte, Jésus le reconnecte avec la présence humaine. Et avant de le guérir, Jésus le touche. Il était restauré. Pleinement et complètement. Jésus dit, je t'aime comme tu es. Je t'accepte tel que tu es. Et après, je te guéris. Quand nous savons que Christ est pour nous, notre perspective sur nous-mêmes change. Cet homme, si connu pour son pouvoir, sa puissance, mais aussi son amour, sa compassion, il vient, il dit, je suis pour toi, je ne suis pas contre toi. Notre perspective sur nous-mêmes change. Nous sommes libérés de la honte, la peur, la culpabilité, la condamnation et tout ce qui peut nous amener à garder une distance de Dieu parce qu'on a l'impression de ne pas être digne de son amour ou digne qu'il nous accepte, digne de sa présence. Entends Jésus nous dire, tu appartiens à moi, tu as ta place à côté de moi. En tant qu'ami, tu es ma fille, tu es mon fils. Je n'ai pas honte de toi. Je veux que les gens nous voient ensemble. Ça bouleverse notre vie intérieure. Ça nous bouleverse. Je suis établie dans mon identité parce que j'appartiens à Jésus. Et il est venu vers moi. Alors que je sais que cette année, vous avez ce défi d'être témoin. En parlant avec Hélène, elle nous a dit que c'est un des points sur lesquels vous vous focalisez un petit peu dans au moins ce début de l'année. L'être témoin, c'est un privilège de porter une si bonne nouvelle. Ce message, Christ est pour toi. Christ est pour toi. Il ne voit pas ta condition, il ne voit pas ta position, il voit ta personne. Il t'aime comme tu es, même avant que tu changes. on va sûrement changer en étant en contact avec Jésus, mais avant que ce changement vienne, il dit, je t'aime, j'ai pas honte de toi, on est ensemble, je m'associe avec toi, et ça change tout. Quand on porte ce message, surtout dans notre société, je pense que c'est tellement important parce que je crois que, j'ai l'impression que ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont cette idée que Dieu est fâché contre l'être humain. On est convaincu qu'on ne peut que le décevoir, qu'on n'est jamais assez bien, au moins pour ceux qui croient en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensent que les chrétiens doivent vivre d'une certaine manière très stricte et très rigide, faire un effort constant d'obligations religieuses pour avoir une vie acceptable selon la religion. Mais Jésus a déjà confronté cette mentalité à son époque avec les pharisiens, mais ça existe encore aujourd'hui. Qu'on doit faire pour essayer de plaire à Dieu. Alors que Jésus, il dit le contraire, je t'aime comme tu es, viens comme tu es. Tu es un pécheur, collecteur d'impôts, je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Et nous avons ce privilège de démontrer par nos vies, par la manière d'aimer de cette même manière, cet amour de Christ. Et peut-être même parler, si l'occasion s'ouvre, si la porte s'ouvre pour parler, même d'aller jusque-là, de parler de Jésus. Vous avez la flotte qui commence bientôt. Ah, privilège d'annoncer aux autres, vous êtes aimés par Jésus. Il vous aime comme vous êtes. Il vous aime comme vous êtes. Et on a ce privilège d'avoir ce message qui nous marque. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il nous invite à chaque être humain, il nous invite à son équipe, ceux qui se tournent vers lui. Il voit notre valeur, il voit la valeur de chaque être humain. Peu importe ce qui se passe, il est pour nous. Donc ce matin, si tu dis, c'est bien pour les non-chrétiens, mais moi je suis déjà chrétien et parfois j'ai l'impression que Jésus, il ne veut pas de moi. Où j'ai fait des choix, j'ai fait des choses dans ma vie, j'ai dit des paroles dont je ne suis pas fière, je regrette vraiment. Et j'ai l'impression forte de culpabilité, de condamnation pour ces choses. Et j'ai du mal à accepter le fait que Dieu soit pour moi. Je crois plutôt qu'il doit être vraiment déçu de moi, même qu'il soit dégoûté de moi. Parce que je le suis de moi-même. Donc comment est-ce que Dieu, qui soit si saint, ne soit pas déçu ou dégoûté de moi? Et c'est vrai que ce n'est pas que les personnes qui ne connaissent pas Christ qui peuvent avoir cette impression que Dieu ne veut pas d'eux. Même en tant que chrétien, on peut avoir cette impression que Dieu n'est pas pour nous. Parfois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on a du mal à croire que Jésus est pour nous. Mais c'est justement pour ça que Paul écrit ses paroles en Romains 8, 31 à 34. Je vais lire dans la version Parole vivante. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, si Dieu dit en gros, je suis ton ami, tu es mon fils, tu es ma fille, je n'ai pas honte de toi, tu appartiens à ma famille. Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Verset 33, qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Que ces paroles viennent renverser toute pensée qui pourrait exister, que peut-être Dieu est dégoûté de moi, peut-être Dieu est déçu de moi. Dieu est pour toi. Et s'il est pour toi, qui peut être contre toi? Nous n'avons rien à craindre de nos fautes du passé, même si votre faute date de ce matin. juste avant d'arriver à l'église. Là, c'est le pire parfois. Tu arrives, tu dis, ouf, pourquoi j'ai ouvert la bouche, pourquoi ça, comme pour ça, c'est toujours juste avant de partir à l'église. Et on sent pas digne parfois d'ouvrir la bouche et commencer à chanter. Et même là, Dieu efface nos fautes. Ne vous privez pas de la grâce que Dieu nous offre à nous tous, parce que tu penses ne pas être digne de le recevoir. Et que ce message, que Dieu soit pour nous, vous inspire dans vos démarches auprès des autres, dans cette année, dans cette ville, dans cette région. Que la lumière de Christ brille à travers vous et que vous soyez ici tellement qui porte ce message, qui bouleverse, qui change la vie, qui change la vie. Je vais prier, on va prier ensemble. Seigneur, toi, tu connais toutes choses, tu connais tout cœur, tu connais chaque être humain, tu connais chaque personne qui est là, intimement, parfaitement, en détail, tu nous connais. Et tu sais exactement les choses qui nous travaillent, les choses qui parfois nous empêchent de venir vers toi. Tu vois les choses avec lesquelles on lutte à l'intérieur de nous, Seigneur. Et je prie que tu parles directement à ces pensées ce matin, ces questionnements, ces doutes, ces remises en question, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi à chaque cœur, dans chaque âme. Et que nous soyons pleinement propulsés par ce message. Tu es pour nous. Tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Et on appartient à toi, Seigneur, parce que tu as dit que tu étais notre ami. Tu t'associes à nous. Sans honte, tu t'associes à nous. Tout en nous connaissant parfaitement. Que chaque personne ici soit relevée pleinement par cette puissante vérité. Et que dans son cœur, il porte ce message dans les occasions, Jésus, cette semaine, pour partager avec quelqu'un, pour transmettre ce même message envers quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je crois que Zachée avait besoin de l'entendre et tu le savais. Et tu sais aussi des personnes qui ont besoin d'entendre ce même message cette semaine. Dirige ton peuple. Dirige chacun dans cette église pour porter ce message. Je prie au nom de Jésus qu'il soit les bénédictions dans cette région, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Tu peux venir, Gabriel. On va chanter. Merci beaucoup. Je pense que le Seigneur a placé Zachée dans votre cœur, vraiment. Merci. On est